Remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, tu nous as déjà fait du bien. Et tu veux continuer, Seigneur, à toucher nos cœurs, à nous attirer toujours plus près de toi. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Que sera-ce lorsque nous serons à tes pieds pour t'adorer? Sur cette mer de cristal, avec les rachetés de tous les siècles, de toutes les générations, que sera-ce lorsque tous ensemble, d'un même cœur et d'une même voix et d'un même amour, nous glorifierons Dieu notre Père et l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Ô Seigneur, combien il est bon de chanter les Alléluia, car toi seul es digne. Ces Alléluia doivent monter vers toi, car toi seul es digne. À nous la confusion de face, Seigneur, mais à toi seul l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Tu veux bénir ta parole aussi maintenant, Seigneur. Dispose nos cœurs favorablement, afin que cette parole tombe dans un terrain bien préparé. Que nous soyons attentifs à ta voix, qu'il n'y ait aucune distraction, Seigneur, mais que nos cœurs soient vraiment attachés à toi pour écouter ta voix et surtout pour la mettre en pratique. Merci, Seigneur. Merci. Inspire, Seigneur, le message selon les besoins de tes enfants. Et nous comptons uniquement sur le ministère du Saint-Esprit, qui est au milieu de nous pour glorifier le Seigneur et pour nous conduire dans toute la vérité. Et à ton nom seul soit la gloire, dès maintenant et à jamais, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il est bon d'être dans la sainte présence du Seigneur. Le Seigneur est là et il veut certainement parler à nos cœurs parce qu'il nous aime, parce que nous lui appartenons. Il veut que notre amour pour lui grandisse toujours plus. Il veut que ce feu divin dans nos cœurs ne s'éteigne point, mais au contraire, que ce feu grandisse en intensité d'un réel amour pour lui, car il en est digne. Amen. Car lui, il nous aime avec une telle intensité. Il nous aime avec une telle ardeur qu'il ne veut qu'aucune autre personne ne prenne sa place, parce qu'il nous aime tant. Et il veut qu'en retour, que rien d'autre ne prenne sa place dans nos vies. et que notre amour pour lui soit réel, ardent, profond. Un amour qui change nos vies et qui apporte une pleine satisfaction au plus profond de notre être. Le message de cet après-midi sera justement comment garder le feu de Dieu dans sa vie. C'est là une réalité capitale dans la vie des enfants de Dieu, n'est-ce pas vrai? Comment garder ce feu? C'est là quelque chose dont nous avons tous besoin. Un feu qui demeure, un feu qui grandit. Comment garder ce feu personnellement? Trop de chrétiens dépendent des uns et des autres pour avoir le feu divin. Mais Dieu veut que chacun d'entre nous, nous ayons ce feu divin dans nos cœurs, que nous sachions le garder personnellement. Les autres peuvent nous aider, mais nous devons savoir comment garder ce feu divin nous-mêmes. Amen. Car si nous ne savons pas garder ce feu divin nous-mêmes, ce que les autres peuvent nous communiquer, nous ne saurons pas le garder. Nous ne saurons garder que ce que nous avons expérimenté nous-mêmes, garder nous-mêmes, allumer nous-mêmes. C'est comme cela que nous pourrons garder le feu divin dans notre cœur. Amen. Et dans les derniers temps, vous le savez, la Bible dit que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et nous sommes dans ces temps-là où l'amour d'un grand nombre se refroidira. Il ne faut donc pas imiter ces personnes, mais imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses et marchent avec Dieu fidèlement. Amen. Alors, comment garder ce feu divin, ce feu de Dieu dans nos vies? Nous allons lire pour cela deux textes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Versets 18, 19 et 20. Ne vous enivrez, on peut lire déjà à partir du verset 15 si vous voulez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et dans le texte grec ici, il est dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Continuellement. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et au chapitre 4 d'Éphésiens, toujours, à partir du verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, voilà ce qui attriste le Saint-Esprit, l'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Vous l'avez remarqué, l'apôtre nous exhorte à être continuellement remplis du Saint-Esprit et à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ailleurs, il est dit de ne pas éteindre, de ne pas étouffer le Saint-Esprit. Il est donc question de garder ce feu. Amen. Car le Saint-Esprit est comme une colombe. La colombe s'effarouche facilement, n'est-ce pas vrai? Il faut une grande disponibilité, une grande sensibilité à l'égard de la colombe pour ne pas l'attrister, afin que l'Esprit de Dieu puisse agir dans nos vies, au plus profond de nous-mêmes, et porter des fruits qui glorifient le Seigneur. Ainsi, comment garder ce feu? J'aimerais vous donner trois points importants qui vont vous permettre de garder ce feu. Trois vérités importantes. Et ces trois vérités, je les ai lues une fois dans une lecture concernant le général de l'armée du salut, qui est William Booth, n'est-ce pas? Nous connaissons William Booth. Et un jour, ses officiers sont venus le voir lors d'un séminaire, d'une convention. Et ces officiers ont dit au général, « Général, que faut-il faire pour garder le feu de Dieu dans nos vies ?» Le général a réfléchi quelques instants. Et après avoir réfléchi, il leur dit ceci, « En pensant aux vieux fourneaux d'autrefois, savez-vous, les vieux poêles d'autrefois. Si vous voulez garder le feu de Dieu, vous devez faire trois choses. Vous devez, toujours en pensant aux poêles, n'est-ce pas? Vous devez premièrement enlever les cendres. Deuxièmement, vous devez veiller à ce qu'il y ait un bon tirage. Et troisièmement, vous devez mettre du bois. Car si vous ne mettez pas de bois, ça ne chauffera pas. Alors, il y a là trois vérités importantes, toutes simples, mais qui vont nous aider cet après-midi à discerner comment garder le feu. Premièrement, il a dit, il faut enlever les cendres. Deuxièmement, veiller au bon tirage. C'est la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Le bon tirage. Et troisièmement, mettre du bois. Nous allons voir simplement ce que cela peut signifier pour nous chrétiens. Première vérité importante, première leçon pour chacun d'entre nous. Si nous voulons garder le feu de Dieu, nous devons enlever les cendres de la veille. Amen. Je me souviens encore, il y a des années en arrière, quand nous avions un vieux poêle à la maison, et certainement que vous en avez fait l'expérience, on est toujours un peu pressé. Et quand on est pressé, on n'enlève pas toujours les cendres, n'est-ce pas? On arrive, on remue un petit peu comme ça, mais ça fait de la poussière, vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de poussière, beaucoup de poussière. Alors on est là, ça, on est dans la poussière, et comme il y a trop de poussière, à un moment donné, on s'arrête. On dit, oh non, ça va, c'est trop salissant. Ça salit, on est dans la poussière, dans la fumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'enlève pas tout, on est toujours trop pressé. On se dit, oh, ça va prendre quand même. Et alors, on met tout de suite un peu de bois et on met tout de suite du papier pour que ça parte. Et quand vous n'avez pas enlevé les cendres complètement, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, ça prend un petit peu, on est content. Hein? On est content, ça prend. Mais à un moment donné, il y a plus de fumée que de feu. Vous êtes d'accord avec moi? La fumée commence à sortir un peu de partout. Et on est là devant notre poêle. Loin de se chauffer, on commence à être enfumé. Beaucoup de fumée, mais pas de feu. Beaucoup de fumée. Il y a beaucoup de choses qui est là, mais le feu n'est pas là. Et tout cela parce que nous n'avons pas pris le temps d'enlever les cendres. Dans beaucoup de vies chrétiennes, il y a beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. On voudrait venir se chauffer un petit peu, mais dès qu'on approche de certains chrétiens, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Un feu, c'est admirable, n'est-ce pas? On aime bien se mettre au coin du feu. Le feu, c'est quelque chose que l'on aime, qui réchauffe, qui fait du bien, n'est-ce pas vrai? Mais quand il y a de la fumée, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de fumée, mais peu de feu. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas fait premièrement ce qu'il faut faire. Pour commencer un feu, un bon feu. Moi, je me souviens, quand j'étais trop pressé, je sentais qu'il y avait la poussière sur moi, tout ça, on était pressé et je devais partir. À la fin, si je ne voulais pas que la maison soit toute froide, il fallait, je me disais, ben Sam, il faut que tu recommences à zéro. Tu étais trop pressé, et ben voilà, maintenant, voilà où tu en es, tu n'as rien du tout, tu n'as eu que de la fumée. En plus, tu es enfumé toi-même. Alors, quel est le résultat? Eh bien, il faut que tu recommences à zéro. Alors, j'ai dit, bon, ben, ça va, j'ai compris. Alors, cette fois, il fallait que je te retrousse les manches. Alors, je dis, mais non, comme il faut. Et les cendres de la veille, il faut tous les enlever. Amen.
Amen.
Les cendres, il faut les enlever. Sinon, il n'y aura pas un véritable feu. N'est-ce pas vrai? Les cendres, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les cendres? J'aimerais vous donner deux vérités importantes concernant les cendres. Les cendres, voyez-vous, c'est ce qui est de la veille, n'est-ce pas vrai? C'est ce qui est de la journée passée, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui est du passé, du passé. Concernant le passé, dans nos vies, nous devons faire quelque chose. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens. Mais concernant leur vie passée, concernant certaines choses, certaines passions et même certains péchés, ils n'ont pas enlevé complètement les cendres. Ils n'ont pas coupé avec le passé. Les cendres, il faut les enlever complètement. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est les cendres qu'on enlève. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, deux leçons importantes concernant les cendres. Si je dis que je suis chrétien, alors concernant ma vie passée, en tant qu'inconverti, en tant que païen, lorsque j'étais païen, je dois, une fois converti au Seigneur, je dois abandonner tout ce qui déshonore le Seigneur dans ma vie. Amen. Pas seulement abandonner certains péchés. Et d'autres péchés que nous aimons un petit peu au fond de notre cœur, nous n'aimons pas les enlever. Et ce que nous n'aimons pas abandonner, que nous savons qui est péché devant Dieu, ce sont des cendres qui restent là. C'est comme encore comme un fil que nous avons à la patte. On va, on traîne, on avance, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas vrai? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui avancent, mais il y a comme un petit fil. Ce fil, c'est encore quelque chose de leur passé dont ils ne se sont pas vraiment repentis. La repentance quant à notre vie passée est ce qui permet d'enlever les cendres de ta vie passée. Amen. La vie chrétienne doit faire table rase avec notre vie passée. Si on doit avoir des problèmes, c'est dans notre vie présente, en tant que chrétien, mais pas en ce qui concerne encore des péchés ou des passions d'autrefois. Amen. Et il y a tant de chrétiens, encore aujourd'hui, ils ont des luttes, ils ont des problèmes, mais vous savez avec quoi? Avec des péchés d'autrefois, de païens.
C'est toujours là. Les uns, je ne sais pas, c'est peut-être la cigarette. Les autres, c'est peut-être le mensonge. Les autres, c'est peut-être l'idolâtrie. Il y a plusieurs choses que nous gardons. Et nous disons, oh, mais ça, je ne peux pas. On s'est bien débarrassé du reste, mais pour cela, on dit, je ne peux pas. Mais la vérité, c'est de dire, je ne veux pas. Amen. Ça, c'est une vérité importante. Bien souvent, nous disons, oh, oui, mais ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que je ne veux pas. Je ne veux pas encore m'en débarrasser. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand nous n'avons pas fait table rase avec notre vie passée? Car lorsqu'on se convertit, c'est pour vivre une vie nouvelle. Amen. L'apôtre Paul disait, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Lorsqu'il prêchait l'évangile, l'apôtre Paul, il voulait que les hommes abandonnent leur vie passée, se convertissent vraiment à Dieu, à Jésus-Christ, pour vivre une vie entièrement nouvelle. Alléluia! La vie chrétienne n'est pas un rafistolage de la vie passée. On ne peut pas mettre un bout de drap neuf au vieil habit. Qu'est-ce qui va se passer? Tout l'habit sera déchiré. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, tout le vin sera perdu. Amen! Tout le vin sera perdu. Il y a tant de cendres encore dans la vie de beaucoup de chrétiens concernant leur vie passée. Il y a toujours une petite passion, une idole qui est là, quelque chose qui devait être réglé à la conversion et dont nous ne nous sommes pas encore détournés véritablement. Et alors ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent chrétiens, mais quand il faut mettre le feu, ça ne prend pas. Ou si ça prend, il y a beaucoup de fumée. Ou si ça prend, non seulement il y a beaucoup de fumée, mais ça s'éteint vite. Ça s'éteint vite. Amen. C'est pourquoi combien de chrétiens n'arrivent pas à garder le feu de Dieu? Et tant qu'il y aura les cendres de ta vie passée, il faudra toujours être là avec un soufflet pour essayer de rallumer. On est toujours là. Avec certains chrétiens, il faut toujours être là avec le soufflet. Alors quand on souffle sur eux, allez, merci, c'est alléluia. Mais vous vous en allez, oh, et plus rien du tout. Le feu s'éteint. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour faire le soufflet. N'est-ce pas malheureux? N'est-ce pas ainsi, bien souvent? Pourquoi? N'avez-vous jamais pensé à cela? Mes amis, si vous allez voir la vie de ces personnes, c'est parce qu'au fond d'elles-mêmes, ces personnes gardent encore quelque chose de leur vie passée qui déshonore Dieu. Et ils ne portent pas des fruits dignes de la repentance. Et ces gens sont malheureux. Vous les voyez peut-être joyeux, mais c'est une joie trompeuse. Vous les voyez joyeux un instant, et quelques jours après, vous les voyez faire une dépression. Il y a une attitude contradictoire. Mes amis, c'est important, ça commence par là. Si vous voulez, si je veux qu'il y ait le feu dans ma vie, d'abord les cendres de ma vie passée. Est-ce que vraiment tu as coupé avec ta vie passée? Est-ce que tu es vraiment passé par une authentique conversion? Seigneur, je te confesse mon péché. Je te confesse ma rébellion. Je te confesse le mal que je t'ai fait. Je suis pécheur devant toi. J'ai honoré le diable. J'ai servi le diable. J'ai marché dans le monde. Mais à partir d'aujourd'hui, j'abandonne et le diable et le monde pour te suivre et marcher en nouveauté de vie. Alléluia! C'est alors et alors seulement que nous expérimentons cette joie profonde que Dieu seul peut donner à ceux qui se donnent et s'abandonnent totalement à lui. Les cendres du passé doivent disparaître. Seigneur, j'en ai assez maintenant. Je ne veux plus garder ce qui est là caché dans ma vie. Je veux l'abandonner. Je veux porter des fruits dignes de la repentance. Amen. Certains chrétiens, vous les voyez chrétiens, mais pratiquement il n'y a pas de changement. Pas de changement. Ou très peu. Vous vous demandez même si la personne est chrétienne. Il faut que la personne vous dise qu'elle est chrétienne pour que vous puissiez le voir. N'est-ce pas triste? Ça devrait se voir, même sans le dire. Si vous voulez dire que vous êtes une chrétienne ou un chrétien, sans que ça se voit, eh bien, votre christianisme n'est pas bien profond, n'est pas bien visible. Si nous voulons le feu de Dieu, mes amis, Ça commence par là. Amen. Les cendres. Donc, par rapport à notre vie passée, as-tu vraiment tout coupé? Ou est-ce que tu cloches à gauche et à droite? Un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Voilà pourquoi le feu ne tient pas. Voilà pourquoi tu as toujours besoin du feu des autres. Voilà pourquoi tant de chrétiens courent à gauche et à droite maintenant. Le Seigneur veut te donner ce feu. Amen. Si tu fais table rase avec les cendres du passé. Amen. Maintenant, il y a une deuxième vérité quant aux cendres. Les cendres, nous l'avons lu, une fois que nous sommes chrétiens, on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais il y a maintenant d'autres cendres. Et les cendres, ce sont l'amertume, l'animosité, on l'a lu, n'est-ce pas? La colère, les clameurs, la calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et au verset 3, chapitre 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Alors, quelles sont les cendres ici? Eh bien, les cendres, ce sont encore, c'est en somme le non-pardon, parce que l'amertume, l'animosité, la colère, la calomnie, toutes ces choses proviennent d'un cœur qui n'a pas vraiment pardonné. Et lorsque le cœur n'a pas vraiment pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, c'est comme des cendres qui sont là. Et ces cendres empêcheront tout feu de l'esprit dans votre vie et dans ma vie. Amen. Alors il y a ces cendres de la rancune, de la méchanceté, de la colère, de la clameur. Et comment s'en délivrer? En pardonnant. Parce qu'en somme, ce sont comme des rejetons d'un cœur plein d'amertume. N'est-ce pas vrai tout cela? Si on vous a fait du mal, pardonne de tout ton cœur. En pardonnant, en disant « je te pardonne », eh bien, c'est comme si vous balayez de l'autel de votre cœur les cendres qui y restent. Amen. Vous êtes comme délivré de ces cendres. Si l'autre vous a fait du mal, la personne aura affaire à Dieu. Mais quant à vous, purifiez vos cœurs de ces cendres, pardonnez, et en pardonnant, c'est comme si vous faites table rase de ces cendres-là qui vous empêchent de faire que le feu de Dieu brûle au plus profond de vous-même. Amen. Mon ami, as-tu de la rancune, du ressentiment contre quelqu'un? Pardonne. Pardonne de tout ton cœur. Il est dit de pardonner comme Christ nous a pardonné. Et ainsi tu seras libéré de ces cendres, de ces clameurs, de ces animosités, de cette amertume qui est là. Lorsqu'on entend certains chrétiens, vous sentez l'amertume qui est là. Les moindres paroles sont des paroles amères qui sortent. Des paroles amères qui vous font du mal. Vous sentez qu'il y a là des cendres qui ne sont pas ôtées. Parce que le pardon n'est pas dans le cœur. Mes amis, nous sommes sur cette terre, et tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons à pardonner. Amen. Pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne à tes enfants, pardonne à ton patron, pardonne. Pardonne de tout ton cœur, et tu seras libéré de ces cendres. Et lorsque tu mettras le bois pour chauffer, tu verras que ça prendra tout de suite. Alléluia. La préparation est importante. Enlever les cendres, a dit le général. C'était une bonne idée. Amen. Une idée toute simple. Mais combien importante pour nos vies. Bon, maintenant que nous avons enlevé les cendres, j'espère que vous les avez enlevées. Vous avez pris la décision par la repentance de couper avec le passé définitivement. Mais ne dites pas, oh, moi, c'est trop fort. Avec le passé, le diable, je suis un peu, c'est le diable qui me tient. Ce n'est pas vrai. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Si toi, tu te repens de ton péché, le diable n'a pas de pouvoir sur toi.
serait vivant ici. S'il pouvait faire ce qu'il veut. C'est un ennemi. C'est l'adversaire de nos armes. Il nous aurait tous détruits. Mais il ne peut pas le faire.
Alléluia. Amen. Amen, amen.
Si nous ne voulons pas lui obéir, nous ne sommes pas obligés de lui obéir. Alors comment s'en sortir? La clé de la délivrance, c'est la repentance. Lorsque tu te repens et que tu abandonnes ton péché, ou ce qui déshonore Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur toi, c'est fini.
Amen.
Il n'y a plus rien à chasser, comme certains chassent du matin au soir. Des démons, plus on en chasse, plus il y en a. N'avez-vous pas remarqué? Plus on en chasse, plus il y en a. Et c'est facile de mettre la faute sur le diable, n'est-ce pas vrai? C'est plus facile de dire c'est le diable, c'est à cause du diable. Le diable il m'a eu, le diable par-ci, le diable par-là. Ah bon? C'est facile ça, tu mets ainsi la faute sur lui, et quant à toi, ben, tu peux continuer comme ça. Non, mon ami, la Bible met toujours la faute sur nous-mêmes. Chacun devra rendre compte de lui-même. Amen. Tu n'auras pas fait des choses dans ce monde parce que le diable t'a forcé, c'est parce que tu l'as voulu.
Amen.
C'est parce que tu l'as voulu. Mais si tu ne veux pas, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi.
Amen. Alléluia.
Amen.
Alors
repens-toi. La repentance est la clé de la délivrance. Lorsque quelqu'un est décidé à abandonner son péché, à le haïr, à le rejeter, le diable n'a plus de pouvoir, il doit partir. Toute oppression est brisée par la repentance. Amen. Voilà comment Paul prêchait. Et il disait, produisez des fruits dignes de la repentance. La repentance, donc la coupure avec le passé, définitif, et le pardon. C'est ce qui nous libère des cendres. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le général a dit qu'il fallait veiller au tirage. Il faut qu'il y ait un bon tirage. Il y a des fois aussi, quand je mettais le feu, bon, parfois c'était propre dans le foyer, tout était propre, mais j'avais oublié d'ouvrir le tirage. Alors c'était en travers, là, et puis, il n'y avait pas de tirage, tout sortait par le poêle, et ça ne pouvait pas marcher, n'est-ce pas vrai? Alors si nous voulons, et si tu veux avoir un feu qui dure, tu dois veiller au tirage. Qu'est-ce que le tirage? Le tirage, c'est simplement la bonne communion avec le Seigneur. Amen. Tu dois veiller à ta communion avec le Seigneur. Tu dois veiller à cela. Et comment enrichir cette communion? J'ai ici trois pensées que je vous donne brièvement. Comment enrichir sa communion avec le Seigneur? Comment avoir un bon tirage? Car il faut que le tirage soit constant. Amen. Il ne faut pas fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, comme certains font. Il faut laisser ouvert, une fois pour toutes. Trois choses à faire. Premièrement, il faut avoir un esprit de prière. Car c'est dans la prière et la respiration de l'âme. Amen. La prière et la respiration de l'âme. Si tu ne pries pas, tu ne respires pas, tu étoufferas. Et tu mourras spirituellement. Un esprit de prière, pas seulement des moments de prière. Il est bon d'avoir des moments de prière. La Bible nous enseigne cela, n'est-ce pas vrai? Mais à côté des moments de prière, la Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être dans un coin et prier tout le temps, du matin au soir. C'est certainement pas ça, vous comprenez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en ayant des moments de prière dans notre vie, nous devons prier sans cesse. Nous devons avoir un esprit de prière. Et là où nous sommes, partout où nous allons, partout où Dieu nous a placés, nous gardons jalousement cette communion intime et personnelle avec le Seigneur. Amen. Il y a des chrétiens qui ne savent pas veiller à cette communion. Et quand ils ont fait quelque chose, ils attendent le dimanche pour venir soi-disant mettre leur vie en règle avec Dieu. Mais pendant toute la semaine, le tirage est fermé. Ils vivent dans la fumée, ils sont empestés, et ils arrivent ici, ils ne savent plus où ils en sont. Mais Dieu veut nous apprendre à avoir un esprit de prière, et à marcher dans la lumière avec lui. Amen. Et lorsque nous avons fait quelque chose, dit quelque chose, pensé quelque chose qui déshonore Dieu, tout de suite, Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie, lave-moi, purifie-moi, purifie mes lèvres, mes yeux, mes mains. Seigneur. Et c'est ainsi que le sang de Jésus, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie. Le texte grec dit « continue de nous purifier de chaque péché ». Amen. Avant notre conversion, nous confessons nos péchés en bloc parce qu'il y en a tellement, n'est-ce pas vrai? Mais une fois que nous sommes convertis, la confession doit être précise. Chaque péché, chaque chose que nous faisons, nous devons le confesser et dire « Seigneur, là j'ai mal agi ». Non, pas dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, toi j'ai mal... » Non, hein? Ah, ça c'est pas comme ça que ça marche. « Oh Seigneur, bon... Oui, pardonne-moi Seigneur, tout ce que j'ai fait de mal. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque chose, on doit mettre le point sur les i, on doit veiller à chaque détail. Amen. C'est cela l'esprit de prière. Seigneur pardonne, Seigneur purifie. C'est ainsi que nous maintenons la communion avec Dieu, que le tirage est bien ouvert et que nous avons une communion parfaite avec le Seigneur. Amen. Alors une fois que nous avons fait cela, nous devons avoir quand même autre chose. J'ai noté ici d'abord un esprit de prière et ensuite un cœur reconnaissant. Nous devons avoir un cœur reconnaissant maintenant. Pas seulement prier le Seigneur continuellement pour être purifié, pour être en communion, mais maintenant un cœur reconnaissant. Le Seigneur veut que nous puissions lui montrer notre reconnaissance. Un chrétien reconnaissant est un chrétien victorieux. Amen. Et il y a trop de chrétiens qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, que d'ingratitude parmi les chrétiens. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être influencés par l'esprit du monde qui constamment revendique. Et même quand on a ce qu'on revendique, on n'est encore pas satisfait. Amen. Un cœur reconnaissant. Nous devons pouvoir dire merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Car écoutez-moi bien, si vous voulez que Dieu vous donne plus, vous devez d'abord être reconnaissant pour ce qu'il vous a déjà donné. Voilà pourquoi certains ne reçoivent pas plus. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà reçu. C'est rien du tout. Je veux que je dise merci pour ça. C'est rien du tout. Mais ça aussi, bon, c'est rien. Ça aussi. Oui, c'est rien. Et finalement, on est là en train de ronchonner et de murmurer. On n'a pas un cœur reconnaissant, mais on a un cœur qui murmure. Murmure. Oui, il y a deux murs. Murmure. C'est les chrétiens qui sont entre quatre murs. Si vous murmurez, vous resterez entre les quatre murs, entre ces murs, et vous n'en sortirez pas, vous serez dans une prison. Murmure. Un cœur reconnaissant, pour la moindre chose, soit reconnaissant. Amen. Et tu verras, ce sera un bon tirage. Le Seigneur se plaît, et il se plaira à te bénir, parce qu'il sait que tu es reconnaissant pour ce qu'il te donne. Amen. Sois reconnaissant. Es-tu reconnaissant? Celui qui est reconnaissant, le Seigneur ne cessera de le bénir. Un enfant qui est reconnaissant à ce que vous lui donnez, vous avez toujours envie de lui en donner encore, n'est-ce pas vrai? Quand l'enfant dit « Oh merci papa, merci maman pour la moindre chose, oh merci, merci », vous avez envie d'en donner encore, n'est-ce pas vrai? Tandis que l'autre enfant, vous lui donnez quelque chose, « Ouais, bon, ça va, allez. Bon, tu aurais pu m'en donner un peu plus, hein ? Qu'est-ce que c'est, toi ? Bon, il rouspète pas tout le temps, même quand vous lui donnez. Qu'est-ce que vous allez penser dans votre petite tête? Ah, c'est ça. Tu n'apprécies pas ce que je te donne. Je t'aurai plus grand-chose maintenant. Tu pourras attendre longtemps maintenant que je te donne quelque chose. Et c'est comme ça qu'il doit apprendre la leçon. Amen. Mais tandis que l'autre. Merci. Pour la moindre petite chose. Merci, papa. Merci, maman. Vous n'avez qu'une envie, c'est de le bénir encore pour cultiver cet esprit de reconnaissance. Amen. Tandis que l'autre, qui respecte tout le temps. Vous n'allez pas lui donner parce que ça va encore alimenter son esprit de murmure et d'ingratitude. Un cœur reconnaissant, c'est un bon tirage avec le Seigneur. Amen. Sois reconnaissant. Ne jalouse pas les dons des autres. Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Sois reconnaissant. Tu es unique dans le plan de Dieu. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Sois reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. Combien de chrétiens sont toujours là à vouloir avoir ce que l'autre a et eux négligent les talents que Dieu leur a donnés. Et voilà pourquoi leur feu s'éteint. Parce qu'ils sont toujours à aller chercher, à se chauffer au feu des autres. Un cœur reconnaissant. Et troisièmement, si nous voulons que Il y a un bon tirage. Nous devons avoir plus qu'un cœur reconnaissant. Nous devons avoir une louange d'amour pour le Seigneur. Une louange d'amour, ça c'est encore plus. Alors là, je vous assure, le tirage, là, quand vous faites ça, vous avez remarqué, quand des fois ça tire, là, vous mettez que ça tire. Il y a des bons tirages et des mauvais tirages, vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est un bon tirage. Une louange d'amour pour le Seigneur. La reconnaissance, c'est dire merci pour ce qu'il vous donne. Et maintenant, Dieu veut nous conduire plus loin. Il veut qu'on dise merci pour ce qu'il est. Nous ne suivons plus le Seigneur pour ses bénédictions, mais pour ce qu'il est. Car il est bien plus grand que ses bénédictions. Amen. Il est bien plus glorieux que ce qu'il peut nous donner. Si ce qu'il nous donne est glorieux, à combien plus forte raison sa personne est plus glorieuse. Alléluia. Et si nos cœurs sont attachés à la bénédiction, il y aura une insatisfaction constante en nous, quoique content pour un temps, mais ça ne dure jamais. Mais si nos cœurs sont attachés à lui, si nous avons une louange d'amour, je t'aime Seigneur, non pas pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es. Alléluia. Alors il y aura cette vraie relation d'amour avec le Seigneur. Et là, je vous assure, il y aura un bon tirage. As-tu cette relation d'amour? Ou n'est-ce qu'une relation d'intérêt? Quand certains chrétiens ouvrent la bouche, c'est toujours « Seigneur, bénis-moi ». Ils ne savent pas faire autre chose. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est toujours « Seigneur, bénis-moi ». « Seigneur, guéris-moi ». « Seigneur, fais ceci ». « Seigneur, fais cela ». C'est toujours pour soi-même. Il n'y a rien pour le Seigneur. C'est toujours « Seigneur, bénis-moi ». Le Seigneur veut te conduire plus loin. Il veut que tu aies un meilleur tirage. Une louange d'amour pour lui. La vie chrétienne est une relation d'amour avant tout. Amen. Une relation d'amour. J'aime le Seigneur non pas pour ce qu'il me donne. Je dis merci quand il me donne, n'est-ce pas vrai? Mais je ne l'aime pas pour cela. Je l'aime pour lui-même. Et les bénédictions qu'il me donne ne doivent pas me détacher de lui. Au contraire, les bénédictions qu'il me donne doivent m'accrocher à lui, m'attirer à lui encore plus. Alléluia! Une relation d'amour. Si tu l'as, tu auras toujours un bon tirage. Mais là où il y a beaucoup de fumée dans la vie de certains chrétiens, là où il n'y a pas un bon tirage, vous remarquez une chose, une foi égoïste, il n'y a pas cette relation d'amour. Tout est centré sur eux-mêmes. Tout! La vie chrétienne, ce n'est pas être centré sur soi-même. La vie chrétienne, c'est qu'en toute chose, Christ est la prééminence. Amen. En tout, il doit avoir la première place. Et nous le suivons, non pas par intérêt, mais parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Une louange d'amour pur. Je t'aime, Seigneur, à voix, c'est tout. Non pas je t'aime parce que tu m'as béni, mais je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Ceux-là iront loin. Et ceux-là auront toujours un feu qui demeurera et qui grandira. Alléluia. Allons plus loin maintenant. Troisième vérité. Le général a dit qu'il fallait mettre du bois. Et bien sûr, si vous avez un bon tirage, vous avez enlevé les cendres, si vous ne mettez rien, est-ce que ça va brûler? Rien du tout. Alors il faut mettre du bois. Et d'après vous, qu'est-ce que ce bois? Le bois, c'est quoi? À Golgotha, c'était quoi? Le bois de la croix. Voilà, le bois de la croix, c'est ce qui va maintenir le feu de Dieu dans notre vie. Car la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu, agit toujours en rapport avec la croix. Il n'y a pas de puissance de résurrection sans la croix. Vous êtes d'accord avec moi? La croix nous conduit à la résurrection. Mais sans, il n'y a pas de résurrection sans la croix. Il n'y a pas de feu divin réel sans l'esprit de la croix dans nos vies. Et c'est quand nous portons notre croix, que nous connaissons le message de la croix, que nous expérimenterons le feu de Dieu. Alléluia! Le feu de la croix de Dieu doit être alimenté par le bois de la croix. Le feu de l'Esprit doit être alimenté par le bois de la croix. Et j'ai noté ici, comme c'est bientôt l'hiver, je vais vous donner 8 bûches pour bien vous chauffer. On ne pourra pas méditer trop longtemps sur ces 8 bûches, ces 8 morceaux de bois que vous pourrez mettre dans votre poêle. Et je vous assure, en général, quand on met les bûches, comment on les met? On les met en forme de croix, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne les mettez pas comme ça, l'une à côté de l'autre, sinon ça étouffe tout le feu. Hein? Il faut les mettre comme ça en forme de croix pour qu'il y ait une certaine aération, n'est-ce pas vrai? Mais si vous les mettez tous comme ça, comme un tas comme ça là, tout va étouffer. Même le bois, il faut le placer en forme de croix. Le bois et la croix. Si tu veux, si je veux qu'il y ait du feu dans ma vie, dans l'autel de mon cœur, je dois savoir ce que la croix représente. Et je vais le dire brièvement, 8 bûches, 8 morceaux de bois qui nous parlent de la croix. La croix nous parle, premièrement, c'est la première bûche, nous parle d'obéissance. Amen. La croix nous parle d'obéissance. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, la croix, pour le Seigneur, c'était faire la volonté de son Père. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Mes amis, lorsque nous sommes décidés à obéir au Seigneur, et à dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, vous verrez le feu de Dieu agir profondément, au plus profond de vous-même. Le feu de Dieu n'est pas donné pour faire notre volonté, nos 4 volontés, nos propres désirs, comme certains le pensent. Aujourd'hui, il y en a qui courent après différentes onctions, mais pour eux-mêmes, pour se distraire, pour s'amuser. Cette onction-là ne vient pas de Dieu. La véritable onction de Dieu n'est pas pour faire nos petits caprices. La véritable onction de Dieu est pour faire la volonté de Dieu. Et non pas notre propre volonté. Je suis venu, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Voilà pourquoi il y avait dans le cœur du Seigneur un feu que ni le diable, ni les démons, ni le monde, ni ses ennemis ne pouvaient éteindre. Amen. Celui qui est décidé à obéir et à faire sa volonté, au lieu de faire la sienne, expérimentera un feu que personne ne pourra éteindre. Mais au contraire, un feu qui grandira, et grandira, et grandira. Alléluia. La croix nous parle de quoi? J'ai noté ici, la croix nous parle de sacrifice, n'est-ce pas vrai? Le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous, c'est là l'esprit de la croix. Il y avait un autre feu dans le cœur du Seigneur. L'obéissance, faire la volonté du Père. Mais aussi l'esprit de sacrifice. La croix, c'est cela. Ce n'est plus chercher à faire ce qu'on veut. C'est se mettre de côté. C'est mettre l'homme de côté pour que Dieu ait toute la place. Amen. Le sacrifice, c'est cela, l'esprit de la croix. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Ce feu n'est pas pour nous-mêmes, mais il est pour Dieu et pour les autres. Tant que nous voulons un feu pour nous-mêmes, ce feu ne tiendra pas. Il y aura plein de fumée. Mais quand nous voulons que ce feu ne soit pas pour nous, le sacrifice, je m'oublie moi-même, mais qu'il soit pour le Seigneur et pour les autres, ton feu brûlera.
Alléluia.
Ton feu réchauffera les autres. Ton feu confortera les autres. Consolera les autres.
Amen.
La croix nous parle d'obéissance, de sacrifice. La croix nous parle de consécration aussi. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que le Père fait, je le fais.
Je fais selon ce que j'entends du Père. Mais je ne peux par moi-même rien faire. Et pourtant, le Seigneur, il pouvait tout faire, n'est-ce pas vrai? Mais volontairement, il a accepté cette limitation. Il s'est consacré au Père pour faire sa volonté et accomplir l'œuvre que le Père lui a demandé d'accomplir. La croix, mes amis, c'est la consécration totale de notre vie entre les mains du Seigneur. Voyez-vous? C'est loin du feu que l'on désire pour nous-mêmes. C'est notre être entier qui est livré entre ses mains. Et quand nous nous livrons entièrement, là tu commenceras à expérimenter un feu. Personnellement, dans ma vie, à un moment donné, j'ai tourné en rond spirituellement. Parce que j'avais repris les rênes de ma vie. Mais il n'y avait rien qui se débloquait. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré, tant que tu vivras pour toi-même, et que tu ne te consacres pas 100% au Maître, tu tourneras en rond. Et là, un jour, j'ai dû prendre une décision solennelle et sérieuse devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'en ai assez de tourner en rond comme cela. Je ne veux plus tourner en rond et vivre pour moi-même. Seigneur, je veux à partir de maintenant me donner 100% à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis pas grand-chose. Je n'ai rien du tout, mais me voici, Seigneur. Le peu que j'ai, je te le donne. Utilise-le pour ta gloire. À partir de ce moment-là, que les choses ont commencé à changer. Mais attention, ce n'était pas une prière du bout des lèvres, comme souvent nous faisons. Une prière que nous faisons ici, et à peine quitté l'église, ou la convention, on l'a tout oublié. On retourne comme avant. Non, mes amis. De telles prières se renouvellent chaque jour. Et apporte un changement radical dans votre vie. La croix, c'est la consécration totale pour faire sa volonté. La croix nous parle de quoi? De responsabilité aussi, n'est-ce pas vrai? Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. La croix nous parle de responsabilité, pas d'amusement. On veut beaucoup plus appuyer sur les privilèges aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Vous n'entendez pas certains messages où l'on parle que des privilèges. Si tu suis le Seigneur, tu seras béni, tu seras guéri, et puis le porte-monnaie aussi, on parle, tu diras, il sera bien rempli aussi. Et tu auras ceci, tu auras que les privilèges. Mais on ne parle jamais de responsabilité. Jamais. 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 On en fait des bébés spirituels. La croix n'y est pas. Si nous ne faisons pas attention, nous allons bientôt prêcher un Christ sans croix. Un Christ sans croix n'est plus le vrai Christ.
Amen. Amen.
La croix nous parle de responsabilité. Il faut mettre les responsabilités avant les privilèges, mes amis. Seigneur, je veux te suivre, non pas pour les privilèges que je reçois, mais parce que je t'aime et je veux te glorifier dans ma vie. Je veux être utile. Les privilèges suivront selon la volonté de Dieu. Tu n'auras même pas besoin de les réclamer. Il te les donnera, et même plus que ce que tu réclames. Tu seras même étonné qu'il te donnera même beaucoup plus que ce que tu n'as pas demandé. Mais pour cela, il faut l'esprit de responsabilité, c'est cela la croix. Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici, Seigneur. La croix nous parle d'un esprit de serviteur. N'est-ce pas vrai? Marc nous dit, 10:45, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà la croix. C'est être serviteur. Entendre certains chrétiens aujourd'hui, on a l'impression que Jésus, c'est le serviteur et eux, ce sont les maîtres. N'avez-vous pas remarqué? Il y a même certains chrétiens qui commandent au Seigneur des choses. Seigneur, je te commande de faire ceci, je te commande de faire cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut commander à Dieu? On est soumis à Dieu, mais on ne peut pas commander Dieu. Amen. Et la croix, c'est cela. Quand on commande, on n'a pas compris. C'est un christianisme sans croix. Un esprit de serviteur, Seigneur, me voici, je suis le serviteur, tu es le maître. Que ta volonté se fasse et non la mienne. comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Je veux faire ta volonté. Tous ceux que Dieu a utilisés dans le monde, ce sont ceux qui ont prié de tout leur cœur. Comme tu veux, Seigneur, quand tu veux, où tu veux, que ta volonté soit faite. Ce sont ceux qui ont eu l'esprit de serviteur et non pas l'esprit de maître. Ceux qui ont l'esprit de maître n'iront pas loin. Et bientôt, ils risquent même de renier le maître, quand les choses n'iront pas comme ils le voudront, n'est-ce pas vrai? La croix nous parle de serviteur. Nous sommes là pour servir et non pas pour être servi. Amen. Si tu as cet esprit-là, il y aura un feu en toi que personne ne pourra éteindre. Amen. Allons un peu plus loin. La croix nous parle, et je vais bientôt terminer, la croix nous parle de joie. Ne pensez pas que la croix est un message de tristesse. La croix est un véritable message de joie. Jésus, juste quelques jours avant sa mort, a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et ça, c'était juste quelques jours avant la croix. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Voyez-vous, même devant la croix, le Seigneur avait une joie profonde, une paix profonde que personne ne pouvait ravir. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux, Jésus qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Amen. Dieu donne une joie profonde à ceux qui sont décidés à lui obéir. Amen. Attention, pas une joie superficielle qui vient et qui part comme cela. Une joie sentimentale. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est une joie profonde dans l'esprit, dans le cœur, que Dieu donne à ceux qui se donnent à lui. Alléluia. Si tu veux goûter au délice éternel de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, Dieu donne cela à ceux qui se donnent à lui, tout entier, sans réserve. Tu goûteras enfin ce qu'est le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Amen. Septièmement, la croix nous parle de vie. La croix nous parle de vie. Jean 10:10, le bon berger venu, afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand la croix est dans notre vie, mes amis, la vie agit chez les autres. Paul lui-même le disait, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Alléluia. Loin de détruire la vie. La croix, au contraire, est le canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Car Dieu ne donne pas sa puissance à n'importe qui. On ne joue pas avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est pour ceux qui ont l'esprit de la croix. La puissance de Dieu n'est pas un jouet qu'on est là pour montrer aux autres. Mes amis, ce n'est pas un spectacle, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste au travers de la croix et pour glorifier le Seigneur. Et je termine. La croix nous parle de quoi? De couronne. La croix nous parle de couronne. Jean 17:4, voici ce que Jésus a dit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Après la croix, c'est la couronne. Glorifie-toi, Père. Donne-moi cette gloire qui était à moi avant que le monde fût. Mais cette gloire lui est donnée après la croix. Et dans l'Apocalypse, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Il n'y a pas de couronne sans croix. Si nous pensons avoir la couronne sans la croix, nous nous faisons des illusions. La couronne est pour ceux qui ont porté la croix et qui veulent glorifier le Seigneur dans leur vie. Laissez-moi dire une chose, ceux qui font cela auront un feu que nul ne pourra éteindre, ni le diable, ni les ennemis. Ni vos amis, ni qui que ce soit, ni vos contradicteurs ne peuvent éteindre ce feu. Au contraire, c'est un feu qui grandit avec l'adversité, avec l'affliction, avec la tribulation. C'est un feu qui grandit. C'est un feu qui grandit, qui grandit, qui grandit. La croix porte ce qu'il apporte. Si tu portes la croix, cette croix te portera, te supportera et te conduira de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'à te tenir un jour au pied du trône de Dieu pour adorer celui qui est seul digne d'être adoré. Et à ses pieds, tu jetteras ta couronne, car cette couronne, il nous la donne pour pouvoir la jeter à ses pieds. Non pas pour dire combien nous sommes merveilleux, mais pour que nous ayons quelque chose à lui apporter. Témoignage de notre amour pour lui et de notre consécration totale à celui qui nous a aimés.